Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant. La presse. Au programme, comment devenir un génie? Les participes passés et le développement du raisonnement? De l'assaut à TikTok? Et pourquoi toujours les mêmes voix publicitaires? Bonne écoute.
Comment devenir un génie? Un texte de Félix Tétrault, paru le 19 février 2023 dans La Presse. Même si son savoir et ses performances à « sans génie » ont stupéfait les téléspectateurs, Félix Tétrault est loin d'avoir la grosse tête. Selon l'adolescent, le succès dans les quiz ne vient pas d'une intelligence supérieure, mais de connaissances générales que tout le monde peut acquérir. Pour ceux qui voudraient s'y mettre, voici comment il s'y prend. Avant de révéler ses trucs, le jeune homme insiste sur un élément incontournable dans le processus, le plaisir. Je trouve ça super important d'être diverti en apprenant, explique-t-il. Il ne faut pas que ce soit une tâche et encore moins que ce soit lourd. On peut se cultiver en s'amusant. Chez lui, l'une des premières sources de connaissances et de plaisir était la famille de magazines des Débrouillards. Quand j'étais petit, la majorité de mes connaissances venait de là. J'ai commencé avec les Explorateurs, avant de poursuivre avec les Débrouillards, et maintenant Curium. J'ai aussi lu très longtemps Image Doc, qui propose des informations imagées et simplifiées dans plein de domaines. Félix Tétrault accordait aussi son attention à des romans qui le divertissaient, tout en décuplant son savoir en parallèle. J'ai lu la saga des Percy Jackson d'une seule traite, car les livres me renseignaient sur la mythologie. Mon livre préféré est « Anges et démons », parce qu'il m'apporte des connaissances sur l'art, l'histoire, les sciences et plein d'autres choses. En pleine visioconférence, Félix Tétrault a sorti un livre purement informatif qui était à ses côtés, 100% culture. Ça parle de 100 chansons cultes, de 100 films d'animation, de 100 empires, de 100 bandes dessinées et ainsi de suite. J'ai accès à des informations que je ne trouverais peut-être pas ailleurs. Si certaines personnes doutent de la qualité des informations qu'on trouve sur le web, le champion de « sans génie » est la preuve qu'on peut y trouver son compte. Sur Instagram, je suis des comptes de médias comme Radio-Canada, Urbania et quelques autres. J'ai toujours une page Wikipédia ouverte sur mon ordinateur. YouTube n'est pas en reste. De plus en plus de créateurs très instruits nous informent à travers des vidéos de 10 minutes sur des sujets à propos desquels je n'aurais probablement jamais appris autrement. Je les vois passer dans mon fil et ça pique ma curiosité. Il y a du très bon contenu sur YouTube. Culture en mouvement. S'il affirme consulter l'application mobile de La Presse et faire les mots croisés du journal, il est également adepte des balados. Quand je vais marcher, j'écoute de la musique ou des balados. Une de celles que j'adore, c'est « Les pires moments de l'histoire » de Charles Beauchesne. Quelques épisodes sont sortis récemment et j'ai tout écouté. L'histoire et l'art sont des sujets qu'il fascine naturellement. Mais l'ado essaie de varier ses connaissances. C'est correct d'être expert dans un sujet, mais je trouve ça bien de garder mes horizons ouverts. Parfois, j'essaie de sortir de mes habitudes et d'en apprendre sur des sujets auxquels je suis moins enclin. dit-il. Il donne en exemple le sport, un domaine dans lequel il ne performait pas du tout au début du secondaire. J'étais poche, mais Génie en herbe m'a forcé à apprendre là-dessus, parce que je voulais être bon dans plusieurs catégories. Peu à peu, j'ai réalisé que ça me permettait de faire des liens avec d'autres domaines. Passion, génie en herbe. Serez-vous surpris d'apprendre que la majorité des jeux de société auxquels il joue sont basés sur des connaissances générales? Mes parents sont tannés des fois, car je veux presque toujours jouer à génie en herbe, Docteur Rat ou Trivial Pursuit. C'est ce que j'aime le plus. Il accroît sa culture grâce à ses jeux, aux sites de questionnaires, Jetpunk et Sporkle sont ses favoris, et aux émissions de quiz. Plus on en fait, plus on arrive à développer son bagage de connaissances et à identifier une question à l'avance. Il y a beaucoup d'anticipation à génie en herbe. Ça peut être bien d'apprendre à prévoir une question ou de savoir quand prendre le risque de répondre ou non. Vitesse, anticipation et mémoire sont au rendez-vous. Je pense avoir une mémoire photographique qui m'aide beaucoup, sans dire qu'elle est meilleure que qui que ce soit. J'essaie de l'entretenir en réactivant mes connaissances souvent. C'est la meilleure méthode. C'était « Comment devenir un génie ?» Un texte de Félix Tétrault, paru le 19 février 2023 dans La Presse. Les participes passés et le développement du raisonnement. Un texte de Diane Gousse, paru le 21 février 2023 dans La Presse. Apprendre le raisonnement des accords de participes passés n'est pas aussi branché qu'apprendre les applications d'informatique. Certains expliquent la régression du français au Québec par un ensemble de raisons dont l'anglais est plus facile, le français est trop difficile, les réseaux sociaux privilégient l'anglais et les francophones font moins d'enfants qu'avant. Tous ces arguments contribuent, dans une certaine mesure, à cautionner l'impopularité du français. La stigmatisation de son fonctionnement favorise l'anglais, plus facile à intégrer. Les raisons de ce recul sont multiples. Mais sa beauté, son envergure et son internationalité demeurent des qualités enviables. Quel est donc le lien avec les règles de l'accord des participes passés? Avant d'y arriver, précisons qu'historiquement, le français est une langue dans laquelle les grammairiens s'en sont donnés à cœur joie. François Ier, roi de France, au XVIe siècle, a offert beaucoup de contrats à Marot, Vaugelas et autres pour implanter des règles en vue d'harmoniser les pratiques dans tout le pays. Aujourd'hui, nous avons hérité de l'ensemble de leur travail et les grammaires expliquent les règles d'accord des participes passés sur plusieurs pages. Jeune étudiante au cégep, à l'université, je n'arrivais pas à intégrer toutes ces règles d'accord. Un jour, j'ai décidé de comprendre et, avec le temps, fiat lux. Lorsqu'enfin le fonctionnement de l'ensemble des règles d'accord du participe passé s'est éclairci, je me suis dit « Pourquoi l'a-t-on enseigné de façon si compliquée ?» Et je suis devenue professeure de français. J'en ai fait mon cheval de bataille dans une partie de ma carrière. J'ai fait des tableaux, j'ai décortiqué les phrases, j'ai expliqué et réexpliquer le raisonnement. Distinguer un complément direct d'un complément indirect selon le verbe, voilà une base. Mais avant d'y arriver, démêlons et nommons les parties d'une phrase. Un adjectif n'est pas un participe passé, etc. Comment appliquer une règle? Puis, mes étudiants finissaient par comprendre et y trouvaient un certain plaisir. Aujourd'hui, nous remettons en question toutes ces règles, signe de l'évolution d'une langue. D'ailleurs, certaines instances sollicitent leur simplification. Le groupe québécois pour la modernisation de la norme du français, GQMNF, y travaille déjà avec ardeur et succès. Cependant, je persiste à penser que la maîtrise du raisonnement des accords des participes passés constitue une gymnastique intellectuelle valable, un apprentissage qui se transfère dans d'autres domaines de raisonnement, les sciences par exemple. Réfléchir, analyser et appliquer une règle, voilà ce que cet apprentissage propose aux persévérants. Mais ce n'est pas aussi branché que l'informatique et ses applications. C'était les participes passés et le développement du raisonnement, un texte de Diane Gousse, paru le 21 février 2023 dans La Presse. De Lasco à TikTok. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 18 février 2023 dans La Presse. Les premières images créées par la race humaine sont celles que nos ancêtres préhistoriques peignaient dans leurs cavernes. Une famille moyenne de Cro-Magnon soupait devant un des murs de la grotte de Lasco en regardant les représentations d'aurochs et de chevaux. Ça ne bougeait pas, c'était toujours les mêmes. Ils ne pouvaient pas changer de poste, mais ça les désennuyait. Bien sûr, ils auraient pu manger leur lunch dehors, en regardant de vrais aurochs et de vrais chevaux, mais c'était plus confortable et moins dangereux en dedans. Durant des millénaires, l'humain s'est entouré d'images fixes. Peintures, gravures, sculptures. Leur partage était limité. Pour contempler les plus grandes œuvres, il fallait être invité dans les palais des rois ou sous le toit des papes. Au début du 19e siècle, l'invention de la photographie allait permettre, 80 ans plus tard, l'invention de la cinématographie. Enfin, les images bougeaient sur l'écran comme on bouge dans la vie. Ou presque. Les gens marchaient un peu plus vite, comme s'ils avaient pris 8 cafés. Et la foule s'est précipitée, presque à la même vitesse, dans des grandes salles pour voir les histoires imaginées par Chaplin et ses contemporains. On sortait de la séance de cinéma et on retrouvait la réalité. Après la Seconde Guerre mondiale, les images animées sont entrées dans les maisons grâce à la télévision. Le quotidien de la planète entière venait de changer. Bien sûr, il fallait avoir les moyens d'acheter le gros meuble avec un petit écran, mais c'était le seul investissement requis. Avec des oreilles de lapin, tu pognais un poste, le seul poste qui diffusait en anglais et en français. Ça occupait les longues soirées. Puis, on a commencé à se lever pour aller voir ce qui se passait à un deuxième poste, puis à un troisième et à un quatrième. Plus il y avait de postes, plus on passait de temps devant eux. Et arriva câble TV, comme disait Yvon Deschamps. Soudainement, des dizaines de chaînes, anglophones surtout, étaient accessibles. Tellement qu'on a inventé la zapette pour pouvoir passer d'une à l'autre sans s'essouffler. Pour être plugué, fallait payer. On a payé. Durant longtemps. Et les internets ont tout changé à nouveau. La télé a perdu le monopole du divertissement animé dans le foyer. On peut en voir sur son ordi, sa tablette et son téléphone. Si bien qu'au fil des ans, la télé s'est éteinte pour toujours dans de nombreuses maisons. Surtout dans celles de la nouvelle génération. C'est la révolution, la liberté. La liberté? Pas sûr. Au début, peut-être. Le câble déplogué, on s'abonne à Netflix pour regarder des séries. Et le reste du temps, on regarde des YouTubeurs et des chats sur Facebook. Ça se gère. Le problème, c'est quand les autres grosses compagnies se sont levées. Ça va faire, Netflix. Nous aussi, on peut faire payer le monde pour nos contenus. Essayez de gérer ça. Si tu veux regarder les séries tirées de Star Wars, faut que tu t'abonnes à Disney+. Si tu veux regarder la série de Xavier Dolan, faut que tu t'abonnes à Club Illico. Si tu veux regarder Ted Lasso, faut que tu t'abonnes à Apple TV. Si tu veux regarder LOL, qui rira le dernier, faut que tu t'abonnes à Prime. Si tu veux regarder Le Trône de Fer, faut que tu t'abonnes à Crave. Si tu veux regarder Les Yeux Fermés, faut que tu t'abonnes à Tout.tv. Ça finit plus. On n'a pas seulement l'embarras du choix, on a surtout l'embarras de payer nos choix. Bien sûr, tu peux te désabonner de la plateforme, un coup que les séries désirées sont dévorées. Encore faut-il que tu te rappelles quelle plateforme, parce que sinon, elle renouvelle ton abonnement automatiquement, jusqu'à ta mort. Sont où les oreilles de lapin? Entre deux séries, que regarde l'être humain? Le soleil? La pluie? La rue? Les arbres? Non. TikTok. On passe le temps sans le voir. Jamais dans l'histoire, on a si peu regardé son environnement au profit des écrans. Et la tendance ira en augmentant. Vous êtes désespérés devant ce monde aux coups cassés sur leur mobile? Un monde aux casques de réalité virtuelle nous attend. À moins que le point de saturation soit atteint avant. Et qu'on se dise, si on sortait enfin de notre grotte? Aussitôt, La Presse Plus terminée, bien sûr. C'était « De Lasco à TikTok », un texte de Stéphane Laporte, paru le 18 février 2023 dans La Presse. Pourquoi toujours les mêmes voix publicitaires? Un texte d'Émilie Côté, paru le 20 février 2023 dans La Presse. Une femme pourrait-elle narrer une publicité de camion? Un homme à l'accent créole pourrait-il promouvoir à la radio des rabais d'épicerie pour le Super Bowl? C'est l'intention derrière l'initiative « Voilà de nouvelles voix » qui veut combattre certains clichés propres à la chasse gardée qu'est le milieu de la narration publicitaire, mais surtout promouvoir de nouvelles voix issues de la diversité. Pourquoi entend-on toujours les mêmes voix? Lance Franck Julien au micro, Alors qu'on voit défiler des photos de Patrice Robitaille, David Savard, Edith Cochrane et Julie Le Breton. Il suffit de ces quelques mots sortis de sa bouche pour conclure qu'il gagne sans doute sa vie avec sa voix d'or. Oui, mais ce n'est pas si simple. Si le membre de l'Union des artistes se trouve dans l'une des chambres d'enregistrement du studio La Majeure, c'est pour enregistrer une narration pour une campagne visant à ce qu'il y ait davantage de voix comme la sienne, issue de la diversité, choisie dans les castings publicitaires. Franck Julien fait partie des acteurs de la campagne « Voilà de nouvelles voix » initiée par Mélanie Delisle et Philippe Brassard de l'agence de pub Cossette en collaboration avec Voilà Casting et le studio La Majeure. Comme chanteur, Franck Julien a participé à des émissions telles que Belle et Bum et Comment tu t'appelles, en plus de faire partie de la chorale de Y a du monde à Metz. Cela fait près de 15 ans qu'il a suivi des cours de voix aux ateliers Daniel Fichot. Je ne suis pas dans le loop des voix publicitaires. C'est une chasse gardée et ça fait longtemps que j'essaie. Ma voix peut sonner comme n'importe qui a grandi au Québec, affirme Franck Julien. Il ajoute, il faut démystifier la façon dont se font les castings. Quand vient le temps de choisir qui assurera la narration d'une publicité, seule la photo influence le choix des acteurs, souligne la directrice de création, Mélanie Delisle. La contrainte du temps favorise aussi le choix de valeurs sûres, si bien qu'il y a encore peu de diversité dans les voies publicitaires par rapport aux séries du petit écran. Résultat, certains acteurs sont très sollicités. Ce manque de diversité crée un cercle vicieux. Pas d'expérience, pas de démo, pas de contrat, souligne Franck Julien dans le message qu'il a enregistré devant nous. Combattre des clichés et des réflexes. Philippe Brassard et Mélanie Delisle sont des collègues chez Cossette. Il y a environ 2 ans, le premier a fait part au deuxième une révélation toute simple qu'il a eue en allant chercher son enfant à sa garderie, à la frontière des quartiers Villeray et Saint-Michel. Son fils grandira entouré de gens de toutes les origines, alors que lui a grandi au Saguenay dans un monde blanc. Comme publicitaire, il devait peut-être prendre un pas de recul et changer certains réflexes. La réalité de mon enfant sera complètement différente de la mienne. En pub, on raconte des histoires, et j'ai pris conscience que ce sont des histoires trop blanches. Pour un 100e anniversaire, on va penser à une voix d'homme au caractère historique. En publicité, les messages sont courts, donc on prend des raccourcis avec des consensus sociaux, explique Mélanie Delisle. Mais pour ce court temps-là, on essaie peu de choses. En toute humilité, on a voulu trouver des outils pour l'industrie. Il faut qu'on se questionne comme client, comme concepteur, comme producteur. Comment peut-on faire pour briser des clichés sans perdre la compréhension rapide des messages à véhiculer? Une bonne prise de risque? Philippe Brassard et Mélanie Delisle ont assisté 7 acteurs issus de la diversité dans l'enregistrement de démos au studio La Majeure. Les enregistrements ont ensuite été mis en ligne sur la plateforme de Voilà Casting, agence fondée par Michel-Olivier Girard, connu pour ses publicités d'A&W. L'automne dernier, les artisans du milieu publicitaire ont reçu des infolettres par l'entremise de Voilà Casting, qui présente l'initiative Voilà de nouvelles voix avec des liens vers les fiches des participants, et une invitation à les engager. Une autre infolettre doit être envoyée cette semaine avec de nouveaux noms. Pour sa part, le studio La Majeure a envoyé le message audio qui suit à différents publicitaires. Le but de la campagne « Voilà de nouvelles voix » est aussi de sensibiliser le milieu à certaines façons de faire envers les acteurs issus de la diversité, souligne Philippe Brassard. Quand on les dirige, est-ce qu'on est maladroit, même si on a de bonnes intentions? Quand leur demande-t-on de changer leur accent, par exemple? C'est vrai que des acteurs manquent d'expérience et que c'est un peu long, mais c'est peut-être qu'il faut mieux les diriger, affirme Mélanie Delisle. Reste que ce sont les clients des publicitaires qui ont le dernier mot pour ce qui est du casting. On a vécu la frustration de se faire dire non, confesse la directrice de création. Or, les entreprises et les agences ont peut-être intérêt à prendre des risques pour se distinguer. En ayant de nouvelles voix, des pubs peuvent se démarquer. Quand toute l'industrie va à gauche, pourquoi on ne va pas à droite? Lance Mélanie Delisle. Si je change juste les réflexes et la vision d'un créatif, je vais être content, conclut Philippe Brassard. C'était « Pourquoi toujours les mêmes voix publicitaires? » Un texte d'Émilie Côté, paru le 20 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Drillon à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.